Chapitre 11. Une virée dans la rue. Mona se réveilla à l'atterrissage. Prayer écoutait Eddie en acquiesçant avec son sourire rectangulaire. Un rictus qui ne semblait jamais le quitter derrière sa barbe. Il avait changé de vêtements en revanche, et il devait donc en avoir d'autres dans l'avion. Il portait désormais un costume gris uni et une cravate aux bandes diagonales, un peu comme les clients qu'Eddie lui dégotait à Cleveland, sauf que le sien lui donnait une autre allure. Elle avait déjà vu un client se faire tailler un costume une fois, dans un Holiday Inn. La cabine se trouvait près du hall de l'hôtel, et il s'y était avancé en sous-vêtements, hachuré de traits bleus, pour se regarder sur trois grands écrans. Sur les images, on ne voyait pas les lignes bleues, parce qu'il portait un costume différent sur chacune. Et Mona avait dû se mordre la lèvre pour ne pas éclater de rire, car le programme cosmétique du système le transformait sur les écrans, étirant légèrement son visage et renforçant son menton sans qu'il s'en aperçoive. Puis, il avait choisi une tenue, renfilé celle qu'il portait, et ils étaient passés à la suite. Eddie racontait à Prayer une de ses arnaques et s'attardait sur un point précis de sa mise en œuvre. Mona avait appris à le laisser parler sans écouter, mais son ton l'agaçait tout de même. Il semblait s'imaginer que ses interlocuteurs ne comprenaient pas l'astuce dont il était si fier. Il la détaillait donc lentement, comme s'il s'adressait à un enfant, d'une voix grave pour paraître patient. Cela n'avait pas l'air de déranger Prayer. Mais Mona n'avait pas non plus l'impression qu'il s'intéressait vraiment à ce que disait Eddie. Elle bâilla, s'étira, et l'avion rebondit deux fois sur le béton de la piste, vrombit, puis commença à ralentir. Eddie ne s'était pas tu un instant.
« Une voiture nous attend !» l'interrompit Prayer.
« Pour nous emmener où ?»
demanda Mona sans tenir compte du regard noir d'Eddie. Prayer lui adressa son sourire. « À notre hôtel !» Il détacha sa ceinture.
« Nous y resterons quelques jours. Je crains qu'il ne te faille les passer presque entièrement dans ta chambre. »«
C'était prévu, » dit Eddie, comme s'il en avait eu l'idée.
« Tu aimes l'estime, Mona ?»
demanda Prayer sans cesser de sourire.
« Bien sûr, comme tout le monde. »«
C'est qui ta star préférée ?»«
Angie, » dit-elle avec un léger agacement, « forcément. » Le rictus s'élargit.
« Bien, nous te fournirons ces dernières cassettes. »
L'univers de Mona était en majorité composé de choses et de lieux qu'elle connaissait, mais qu'elle n'avait jamais vus ou visités en vrai. L'aéroport de l'étendue du Nord n'avait pas d'odeur dans l'estime. Il devait l'effacer, imaginait-elle, comme les migraines ou les règles douloureuses d'Angie. Mais dans la vie réelle, il puait. Comme Cleveland, mais en pire. Elle se dit que ce devaient être les relents normaux des aéroports lorsqu'ils quittèrent l'avion. Mais ils devinrent plus forts quand ils sortirent de la voiture pour entrer dans l'hôtel. Il faisait un froid d'enfer dans la rue, avec un vent qui piquait ses chevilles nues. Elle trouva l'hôtel plus grand que cet Holiday Inn, mais aussi plus ancien. À la réception, moquette bleue et propre, il y avait plus de monde que dans celle d'estime. Prayer la fit patienter près d'une pub pour une station touristique orbitale. Puis il s'approcha d'un long comptoir noir avec Eddie pour parler à une femme au badge doré. Elle se sentit bête de devoir attendre là, dans cet imper en plastique blanc que Prayer lui avait fait mettre, comme s'il trouvait que sa tenue n'était pas assez bien. À peu près un tiers des gens à la réception étaient des Japs, des touristes sans doute. Tous semblaient équipés de matériel d'enregistrement, vidéo, holo, quelques-uns avec des appareils de SimSteam à la ceinture, sans paraître pour autant très fortunés. Il devait pourtant être blindé, songea-t-elle, mais aussi peut-être assez malin pour ne pas trop le montrer. Elle vit Prayer mettre une puce de crédit sur le comptoir vers la femme au badge, qui la prit et la fit glisser le long d'une fente métallique. Prayer posa son sac sur le lit, un grand bloc de mousse beige, et pianota sur un panneau qui ouvrit un mur de rideaux.
« Ce n'est pas le Ritz, » dit-il.
Mais nous allons tout faire pour que tu te sentes à ton aise. »
Mona ne sut quoi répondre. Le Ritz était un restaurant de burgers de Cleveland, et elle ne voyait pas le rapport.
« Regarde, » dit-il, « ta copine. »
Il se tenait près de la tête de lit rembourrée, à laquelle était intégré un appareil de steam ainsi qu'une petite étagère avec un ensemble de trodes dans un emballage plastique et 5 ou 6 cassettes. Les dernières steam d'Engie. Elle se demanda qui avait mis ces cassettes-là, et si on l'avait fait après que Pryor lui avait posé la question sur ses préférés. Elle lui sourit à son tour et s'approcha de la fenêtre. L'étendue paraissait exactement comme dans les steam. La vitre comme une carte postale en hologramme, avec des immeubles connus dont elle ignorait les noms, mais qu'elle savait célèbres. Les dômes gris, les géodésiques blanchis par la neige, et au-delà, le gris du ciel.
« Ça te plaît, chérie ?»
demanda Eddie en arrivant derrière elle et en posant les mains sur ses épaules. « Ils ont des douches ici ?» Pryor éclata de rire. Elle haussa les épaules pour se défaire d'Eddie et emporta son sac dans la salle de bain. Elle referma et verrouilla la porte. Elle entendit Pryor rire de nouveau et Eddie repartir dans le récit de ses arnaques. Elle s'assit sur les toilettes, ouvrit le sac et en sortit le kit de maquillage où elle rangeait sa Wheeze. Il lui restait 4 cristaux, ce qui devrait aller. 3 lui suffisaient, mais lorsqu'elle n'en avait plus que 2, elle cherchait en général à se ravitailler. Elle ne prenait pas beaucoup d'en fait, en tout cas pas tous les jours, sauf ces derniers temps. Mais uniquement parce que la Floride commençait à la rendre folle. Elle allait dorénavant pouvoir réduire sa consommation, songea-t-elle, tout en sortant un cristal de la fiole. On aurait dit un bonbon jaune. Il fallait l'écraser, puis le broyer entre 2 filtres de nylon. Il dégageait alors comme une odeur d'hôpital. Lorsqu'elle eut fini sa douche, il n'était plus là. Elle y était restée jusqu'à en avoir assez, c'est-à-dire longtemps. En Floride, elle se lavait en général dans des piscines publiques ou des garde-bus, dans ces cabines qui fonctionnaient avec des jetons. Elle se dit que celle-ci devait être reliée à un appareil qui mesurait les litres dépensés et les ajoutait à la note. C'était comme ça à l'Holiday Inn. Il y avait un gros filtre blanc au-dessus du pommeau de douche et un autocollant sur le carrelage, avec un œil et une larme pour prévenir qu'il valait mieux ne pas se mettre d'eau dans les yeux, comme à la piscine. Une rangée de becs verseurs dépassait des carreaux et un bouton en dessous de chacun permettait d'obtenir du shampoing, du gel douche, du savon liquide, de l'huile pour le bain. Lorsqu'on appuyait dessus, un petit voyant rouge s'allumait pour indiquer qu'il était facturé. Sur le compte de Pryor, elle était contente qu'il soit parti, parce qu'elle aimait être seule, défoncée et propre. Elle n'avait pas beaucoup l'occasion d'être seule, sauf dans la rue, et ce n'était pas pareil. Elle laissa des empreintes humides sur la moquette beige lorsqu'elle s'approcha de la fenêtre. Elle s'était enveloppée dans une grande serviette assortie au lit et au sol, avec un mot brodé dans la face en éponge, sans doute le nom de l'hôtel. Un pâté de maison plus loin se trouvait un immeuble à l'ancienne, dont on avait taillé les flancs du sommet pour en faire une sorte de montagne avec des rochers et de l'herbe ainsi qu'une cascade qui venait frapper les pierres. Qu'on se soit donné ce mal la fit sourire. De la vapeur s'élevait de l'eau là où elle heurtait la façade. Elle ne peut pourtant pas chuter jusque dans la rue, songea-t-elle, car cela coûterait trop cher. Elle se dit qu'il devait la pomper et la réutiliser en circuit fermé. Une forme grise bougea la tête là-bas et releva ses grosses cornes recourbées comme si elle l'observait. Mona recula d'un pas sur la moquette et cligna des yeux. Une sorte de mouton, mais qui devait être télécommandé, un hologramme ou quelque chose comme ça. Il baissa la tête et se mit à manger de l'herbe. Elle éclata de rire. Elle sentait la Wheeze à l'arrière de ses chevilles et sur ses omoplates, un picotement froid et l'odeur d'hôpital au fond de sa gorge. Elle avait déjà eu peur, mais ce n'était plus le cas désormais. Pryor avait un sourire mauvais, mais ce n'était qu'un homme de main, un employé des marges. S'il avait de l'argent, ce n'était pas le sien. Et elle ne craignait plus Eddie. Elle avait même presque peur pour lui. Parce qu'elle voyait bien comment le considéraient les autres. « Enfin, se dit-elle. Peu importe, elle n'élevait plus de poisson-chat à Cleveland et il n'y avait pas moyen qu'elle retourne en Floride. Elle se rappela le petit poêle à alcool, les matins d'hiver glacial, le vieux voûté dans son grand imper gris. Par temps froid, il ajoutait
une deuxième couche de plastique aux fenêtres. L'appareil suffisait à chauffer la pièce, car les murs étaient doublés avec des panneaux de mousse haute densité et de carton par-dessus. Là où l'on voyait la mousse, on pouvait la gratter avec les doigts, y creuser des trous. S'il la surprenait à faire ça, il hurlait. Garder le poisson au chaud l'hiver requérait davantage de travail. Il fallait pomper l'eau jusqu'au toit, où se trouvaient les panneaux solaires, par des tubes en plastique transparent. Mais les espèces de végétaux qui pourrissaient sur les rebords de la cuve aidaient bien aussi. De la vapeur s'élevait lorsqu'on allait chercher un poisson à l'épuisette. Ils les échangeaient contre d'autres aliments, des légumes que les gens faisaient pousser, de l'alcool pour le poêle et pour boire, des grains de café, des déchets que mangeaient les poissons. Ce n'était pas son père. Et il l'avait assez répété dans les rares occasions où il parlait. Parfois, elle se demandait tout de même s'il ne l'était pas en réalité. La première fois qu'elle l'avait interrogé pour savoir quel âge elle avait, il avait répondu « 6 ». Et elle avait commencé à compter à partir de là. Elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle et se retourna. Pryor se tenait là. La carte-clé en plastique doré à la main, sa barbe dévoilant son rictus. « Mona ?» dit-il en entrant. « Voici Gérald. Grand, chinois, costume gris, cheveux grisonnants. » Gérald eut un sourire doux, doubla Pryor et fonça droit vers la commode en face du pied de lit. Il y posa une mallette noire qu'il ouvrit. « Gérald est un ami. Il est dans la médecine. Il faut qu'il t'examine. » « Mona ?» dit Gérald en retirant quelque chose de son attaché case. « Quel âge as-tu ?»«
Elle a 16 ans, » répondit Pryor.
« Pas vrai, Mona ?»«
16 ans, » répéta Gérald.
L'objet dans sa main évoquait des lunettes de soleil avec des boursouflures et des câbles.
« C'est un peu limite, tu crois pas ?»
Il jeta un coup d'œil à Pryor qui sourit.
« Il manque quoi, 10 ans ?»«
Pas tout à fait, » dit Pryor. « Nous ne recherchons pas la perfection. » Gérald la considéra.
« Et vous ne l'obtiendrez pas. »
Il cala les lunettes sur ses oreilles et appuya sur un bouton. Une lumière s'alluma sous le verre droit. « Mais on peut s'en approcher plus ou moins. » La lumière se tourna vers elle.
« On veut une intervention esthétique, Gérald. »«
Où est Eddie ?»
demanda-t-elle tandis que Gérald s'avançait.
« Au bar, tu veux que je l'appelle ?»
Pryor décrocha le téléphone, mais le reposa sans l'utiliser.
« Qu'est-ce que c'est ?»
Elle s'écarta de Gérald. « Un examen médical, » répondit-il. « Ça ne fait pas mal. » Il l'avait bloqué contre la fenêtre. Au-dessus de la serviette, ses omoplates appuyaient contre le verre froid. « Quelqu'un s'apprête à t'embaucher et à te payer très cher. Ils doivent s'assurer que tu es en bonne santé. » La lumière vint frapper son œil gauche.
« Elle a pris un stimulant, »
dit-il à Pryor sur un autre ton. « Essaie de ne pas cligner, Mona. » Le rayon passa à l'œil droit.
« Alors, Mona, t'as pris quoi ?»«
De la whiz. » Elle détourna les yeux. Il lui attrapa le menton avec ses doigts froids et lui ramena la tête.
« Combien ?»«
Un cristal. »
La lumière avait disparu. Son visage lisse était très proche, les lunettes recouvertes de verre, de fente, de petites paraboles métalliques.
« Impossible d'évaluer sa pureté, » dit-il.
« Elle est très pure, »
annonça-t-elle en ricanant. Il lui lâcha le menton et sourit.
« Ça ne devrait pas poser de problème, » remarqua-t-il.
« Tu peux ouvrir la bouche, s'il te plaît ?»«
La bouche ? » ?»«
Je veux examiner tes dents. » Elle jeta un coup d'œil à Pryor.
« Tu as de la chance, »
dit Gérald à Pryor après avoir examiné sa bouche avec la petite lampe. « Plutôt bon état et proche de la disposition de la cible. Couronne, plombage. » « On savait qu'on pouvait compter sur toi, Gérald. » Gérald retira les lunettes et regarda Pryor. Il retourna devant la mallette noire et y rangea l'instrument d'optique.
« Et t'as du cul pour les yeux aussi.
Très proche.
Il suffit de les colorer. »
Il sortit une enveloppe en papier aluminium de l'attaché case et la déchira avant d'enfiler le gant chirurgical pâle sur sa main droite.
« Retire la serviette, Mona. Mets-toi à l'aise. »
Elle jeta un coup d'œil à Pryor, puis Gérald.
« Vous voulez voir mes papiers, les analyses de sang et tout ça ?»«
Non, » dit Gérald, « ça ira. » Elle regarda par la fenêtre en espérant apercevoir la créature à cornes. Mais elle avait disparu, et le ciel paraissait bien plus sombre. Elle dénoua la serviette, la laissa tomber par terre, puis s'allongea sur le dos contre la mousse beige. Ce n'était pas si différent de ce pourquoi on la payait. C'était même plus court. Tandis qu'elle broyait un nouveau cristal assise dans la salle de bain avec la trousse de maquillage ouverte sur les genoux, elle estima qu'elle avait le droit d'être en colère. Pour commencer, Eddie était parti sans elle, puis Pryor s'était pointé avec son docteur Zarbi et lui avait dit qu'Eddie dormait dans une autre chambre, en Floride. Elle aurait apprécié de moins être collée à Eddie, mais ici, c'était pas pareil. Elle ne voulait pas rester seule, et elle avait eu trop peur de demander une clé à Pryor. Lui en avait une en revanche, et il pouvait entrer n'importe quand avec ses potes craignos. C'était quoi ce plan? Et le coup de l'impair en plastique, ça aussi, ça la faisait chier. Un putain d'impair en plastique jetable, elle fit passer la Wiz réduite en poudre dans le tamis de nylon jusqu'à la pipe. Expira complètement, colla l'embout à ses lèvres et inspira. Le nuage de poussière jaune tapissa les membranes de sa gorge, une partie atteignit même ses poumons. Elle avait entendu dire que ça pouvait être très mauvais. Elle n'avait rien prévu lorsqu'elle s'était rendue dans la salle de bain avec sa pipe. Mais alors qu'un picotement montait dans sa nuque, elle se mit à penser aux rues autour de l'hôtel, ce qu'elle en avait vu en arrivant. Il y avait des boîtes, des bars, des boutiques avec des fringues dans la vitrine. De la musique, ça lui dirait bien, là. Et une foule. On pouvait se lâcher dans une foule, se laisser complètement aller, ne vivre que l'instant présent. La porte n'était pas fermée, elle le savait. Elle avait déjà essayé. Mais elle se verrouillerait après son passage et elle n'avait pas de clé. En revanche, elle avait une chambre ici et Pryor devait donc l'avoir enregistrée, elle, à la réception. Elle envisagea de descendre et de demander une clé à la femme derrière le comptoir. Mais cette simple idée la rendait mal à l'aise. Elle connaissait les employés protégés par leur bureau et leur façon de vous regarder. « Non, » décida-t-elle, « le mieux était de rester ici et de stimer ses nouveaux NG. » 10 minutes plus tard, elle sortait par une entrée de service donnant sur le hall principal, la Wiz chantant dans sa tête. Il brunait dehors, peut-être de la condensation. Elle avait mis l'imperméable blanc pour la réception en se disant que Pryor devait savoir ce qu'il faisait. Mais elle était désormais contente de l'avoir. Elle prit un pli de fax d'une poubelle qui débordait et le tint au-dessus de sa tête pour protéger les cheveux de la pluie. Il ne faisait pas aussi froid qu'auparavant, ce qui valait mieux. Elle n'avait pas vraiment de vêtements chauds. Elle regarda des deux côtés de l'avenue pour décider dans quelle direction partir. Et vit 5 ou 6 façades d'hôtel quasi identiques, une file de vélo-taxi, le scintillement humide d'une rangée de boutiques. Et des gens, beaucoup, comme au centre de Cleveland, mais tous bien habillés et qui se déplaçaient d'une démarche assurée avec une destination précise. « Suis le mouvement, » se dit-elle, la Wiz lui procurant un nouveau coup de fouet qui l'envoya dans le flot d'élégance citadin, sans y réfléchir. Dans le cliquetis de ses chaussures neuves, elle tint le fax au-dessus de sa tête jusqu'à ce qu'elle remarque, encore un coup de peau, que la pluie avait cessé. Elle aurait bien aimé pouvoir profiter des vitrines des magasins lorsque la foule l'entraînait devant. Mais elle se plaisait dans ce flux, et personne ne s'arrêtait. Elle se contenta de brefs regards à chacune. Les vêtements semblaient tout droit sortis d'une steam, et certaines coupes lui étaient totalement inconnues. « C'est ici que j'aurais dû vivre, » pensa-t-elle. Depuis le début. Pas dans une ferme à poisson-chat, pas à Cleveland ni en Floride. C'est un endroit réel ici, tout le monde peut venir. Et on n'est pas obligé d'y accéder par steam. Mais elle n'avait jamais vu cette partie dans une steam, là où se trouvaient les vrais gens. Une star comme Angie ne traînait pas dans ses coins. Elle était dans des hauts châteaux avec les autres vedettes de la steam, pas ici, dans la rue. Mais mon Dieu que c'était beau! La nuit étincelait tant. Et cette foule qui se déplaçait autour d'elle, devant toutes ces jolies choses que l'on pouvait se procurer avec un peu de chance.
Eddie n'aimait pas ça. Il avait toujours dit qu'il trouvait que c'était nul ici. Trop bondé, avec des loyers trop chers, trop de flics, trop de compétition. Mais il n'avait pas hésité deux secondes lorsque Pryor lui avait proposé, se rappela-t-elle. Et puis, elle pensait savoir pourquoi Eddie méprisait l'endroit. Il s'était grillé ici, avait-elle compris. C'était grave planté. Comme un Wilson. Soit il avait envie d'oublier tout ça, soit il restait des gens prêts à lui rappeler s'il revenait. On le sentait dans la hargne avec laquelle il parlait d'ici. La même que lorsqu'il mentionnait quelqu'un qui sous-estimait ses arnaques. Le nouveau pote super malin d'un soir devenait un pur Wilson le lendemain, complètement idiot, sans la moindre vista. Elle passa devant un grand magasin dont la vitrine exhibait du matériel de steam super beau, léger et d'un noir mat, surmonté d'un immense holo d'Engie, qui les regardait tous défiler avec son demi-sourire triste. La reine de la nuit. Ouais. Le flot de la foule s'écoula sur une sorte de cercle, une place où quatre rues se rejoignaient et s'enroulaient autour d'une fontaine. Et comme Mona n'avait pas vraiment de destination précise, elle échoua là, parce que les gens autour d'elle se séparaient dans diverses directions sans s'arrêter. Il restait tout de même des personnes sur la place, dont certaines assises sur le béton fendu qui entourait la fontaine. Une statue trônait au centre, en marbre usé et aux contours arrondis, une sorte de bébé qui chevauchait un gros poisson, un dauphin. La bouche de l'animal devait projeter du liquide lorsque le jet fonctionnait, ce qui n'était pas le cas. Par-delà les têtes des gens assis, elle vit des fax froissés et trempés et des tasses en polystyrène dans l'eau. Puis, ce fut comme si la foule s'était agglomérée derrière elle, mur de corps incurvé et en mouvement. Et les trois personnes face à elle, sur le rebord de la fontaine, lui sautèrent aux yeux comme sur une photo. Une grosse nana aux cheveux teints en noir, la bouche à moitié ouverte et bloquée dans cette position, les seins qui débordaient d'un dos nu en latex rouge, une blonde, avec un visage allongé et un mince trait bleu de baume à lèvres, les mains comme des griffes d'oiseau, tenant une cigarette. Un homme, aux bras luisants et nus malgré le froid, les muscles implantés, visibles comme des pierres sous le bronzage synthétique, et des affreux tatouages de prison. Hé, connasse ! Cria la grosse avec une certaine jubilation. Tu crois pas que tu vas pouvoir tapiner ici, j'espère ? La blonde considéra Mona de ses yeux fatigués et lui adressa un sourire effacé, du genre « Ce n'est pas ma faute ». Puis détourna le regard. Le Mac sauta de la fontaine comme s'il était monté sur ressort, mais Mona s'était déjà enfuie, apeurée par l'expression de la blonde. Il lui attrapa le bras, mais la manche de l'impair céda et elle parvint à se frayer un chemin dans la foule. La Whis prit le relais et elle se retrouva à un pâté de maison de là au moins, appuyée contre un poteau en acier à tousser, hyperventilée. Mais la Whis lui faisait maintenant l'effet inverse, comme cela arrivait parfois. Et tout était affreux. Les visages dans la foule avaient l'air exaltés et affamés, comme s'ils avaient tous des courses personnelles à faire en catastrophe, et l'éclairage des vitrines était froid, mauvais. Et tout ce qu'elle présentait ne servait qu'à lui rappeler qu'elle ne pouvait pas se le payer. Il y avait une voix quelque part, une voix d'enfant en colère qui débitait des obscénités dénuées de sens sans jamais s'arrêter. Lorsqu'elle comprit de qui il s'agissait, elle se tut. Elle avait froid au bras gauche. Elle baissa les yeux et vit qu'elle n'avait plus de manches, la couture sur son flanc déchirée jusqu'à la taille. Elle retira l'impair et le passa sur ses épaules comme une cape. Peut-être qu'elle était un peu moins repérable ainsi. Elle s'appuya dos contre le poteau, tandis que la Whiz revenait à la charge sur une vague d'adrénaline en retard. Ses genoux se mirent à trembler, et elle crut qu'elle allait s'évanouir, mais la Whiz lui joua un de ses tours, et elle se retrouva accroupie dans la lumière du crépuscule d'été, dans la cour du vieux, devant les traces du jeu auquel elle s'amusait dans la terre grise et floconneuse. Mais elle était recroquevillée, là, sans expression, à regarder par-delà les carcasses des cuves où des lucioles brillaient dans l'amas de ronces au-dessus d'un antique châssis tordu. Il y avait de la lumière derrière elle dans la maison et elle sentait le maïs cuire, le café bouilli et rebouilli jusqu'à ce qu'une cuillère puisse y tenir debout, disait-il. Et il devait être là, en train de lire un de ses livres, pages jaunes et craquantes, jamais cornées. Il les achetait dans des pochettes en plastique usées, et parfois, il lui tombait en poussière dans les mains. Mais s'il trouvait quelque chose qu'il voulait conserver, il piochait un scanner miniature d'un tiroir, y mettait des piles et l'appliquait sur la page. Elle adorait voir les copies sortir, avec leur odeur spéciale qui s'évanouissait. Mais il ne la laissait jamais s'en servir. Parfois, il lisait à voix haute, d'un ton un peu hésitant, comme s'il tentait de reprendre un instrument dont il n'avait pas joué depuis longtemps. Ce n'était pas des histoires, ça n'avait pas de fin et il n'y avait rien de drôle. Il s'agissait plutôt de fenêtres vers quelque chose de très étrange. Il n'avait jamais essayé de les expliquer. Sans doute ne les comprenait-il pas lui-même. Peut-être que personne n'y entendait rien. Puis, la rue revint d'un coup, éclatante. Elle se frotta les yeux et toussa.